Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà, 6h07 et c'est parti pour ce week-end des experts. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Nous allons passer cette matinée ensemble, vous le savez, le week-end des experts, le samedi, le dimanche, 6h-10h, avec demain l'automobile, 3h d'auto. Ça sera juste après De quoi je me mêle, entre 6 et 7. Et puis, en ce samedi matin, vous le savez, vos 4 rendez-vous. 9h-10h, la vie numérique avec Raphaël Grably. On s'intéressera à une marque chinoise qui cartonne et qui arrive en France en force. Il s'agit de Xiaomi. Nous recevrons le porte-parole de Xiaomi France qui fait des smartphones ou des trottinettes, des ordinateurs, des télévisions avec un rapport qualité-prix étonnant. Ce sera tout à l'heure, donc, entre 9h et 10h. Évidemment, Christian Ekia, notre médecin, sera là. On fera un point sur le Covid, sur la Covid avec lui. On vous rappellera qu'il faut marcher, il faut faire du sport, surtout après tout ce confinement. Et puis on évoquera les problèmes d'eczéma qui, avec l'été, s'aggravent. Ce sera notre dossier de ce samedi matin. Entre 7h et 8h, c'est Christian Pesset qui sera en notre compagnie. Vous le savez, notre rendez-vous maison. On évoquera la sécurité de la maison. Comment bien connecter sa maison pour qu'elle soit sécurisée à l'approche des vacances? Ça serait peut-être pas mal d'y songer. Ça sera donc tout à l'heure entre 7 et 8. Et pour débuter, c'est le jardin, bien sûr. Et le jardin, c'est avec Patrick Mulan. Miu Miu, bonjour.
Bonjour François, bonjour à tous. Très très bienvenue dans nos jardins magnifiques en ce moment. Il est vrai que le mois de juin, c'est le mois des jardins.
Et puis, vous savez quoi? On va rajouter un petit plouf dans le jardin. Parce que si vous me laissez un petit peu de place dans votre jardin, Patrick, tout à l'heure, j'installerai une petite piscine.
Bah, peut-être pas dans le mien, mais dans celui de l'auditeur qui va jouer avec nous, je pense.
Vous voulez pas dans votre jardin?
Alors, c'est pas que je veux pas.
Mais vous auriez pas de place. Mais
voilà, comme vous avez.
Je ne sais pas si Nicole serait d'accord, en plus.
Oh, bah, elle aimerait bien une piscine, je pense. Non, mais nous, notre jardin aujourd'hui, il est bien plein, bien végétalisé, bien, voilà, pour que je puisse vous faire plein de belles images.
Et plein de vidéos qu'on peut retrouver sur votre page YouTube, sur News Jardin TV.
Voilà.
Tout ça pour vous dire que oui, tout à l'heure, je vous offrirai un joli cadeau. Je vous offrirai, tout comme la semaine dernière, une belle piscine tubulaire rectangulaire. On rentrera dans les détails tout à l'heure. Donc, au menu de ce rendez-vous jardin, les abeilles, les fleurs et le jardin, Patrick.
Oui, c'est la semaine des fleurs pour les abeilles. Ça commence aujourd'hui. Ça aurait dû, sans la Covid-19, commencer même dès le 20 mai. Parce que l'idée, c'est que chacun puisse semer un petit coin de son jardin avec des fleurs mellifères. On avait fait toute une émission sur les fleurs mellifères. Donc, ces fleurs qui attirent les abeilles. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de faire en sorte que les populations d'abeilles se reconstituent, augmentent, parce que on a des problèmes de butineurs, et les butineurs sont essentiels à la vie.
Donc la semaine des fleurs pour les abeilles, on en parlera tout à l'heure, ce sera notre dossier. On va évoquer aussi le palissage et le tuteurage tout à l'heure. Pourquoi, comment et avec quoi?
Parce que ça pousse en ce moment.
Et oui, ça pousse.
Il faut attacher tout ce monde-là.
Et puis je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez joindre Patrick pour poser vos questions au jardin. Vous avez une interrogation concernant votre jardin, votre terrasse fleurie, profitez-en. 3216, l'appli RMC, Direct Studio, vous nous laissez votre petit message avec votre numéro de téléphone. On se fera un plaisir, Patrick se fera un plaisir de répondre à votre question. Voilà, c'est parti, bienvenue dans ce week-end des experts, le jardin jusqu'à 7h. Et on attaque avec Louisa qui est là. Bonjour Louisa du Var.
Oui, bonjour François, bonjour Patrick,
bonjour,
comment ça
Louisa.
Va?
Oh là 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 là, mais quel entrain Louisa, ça fait plaisir de bon matin à 6h11. Vous savez que vous avez un sourire et un entrain communicatif, ça donne envie.
Voilà, alors bon d'habitude, je vous écoute depuis des années.
Oui.
Voilà, ça fait, bon, en allant travailler, mais là maintenant je ne travaille plus du tout le samedi, alors je suis à la maison et j'en profite.
Eh ben profitez-en. Voilà.
Mais vous avez bien raison, ça c'est le top Louisa. Qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Écoute, racontez-nous.
Moi, nous avons un cerisier qui est magnifique, qui donne des fleurs. C'est la cerise Burla.
Oui.
Voilà. Et là, ça fait la deuxième année qu'il ne donne rien. Et cette année, il a fait des cerises toutes sèches. D'ailleurs, j'ai envoyé des photos. Voilà.
Oui, alors les cerises toutes sèches, ce que j'ai pu voir sur les photos, ça ressemble pas mal à du Monilia, enfin, ou du moins à la fin d'une attaque de Monilia. C'est un... Une maladie cryptogamique extrêmement fréquente, notamment quand les printemps sont un peu pluvieux. Le problème avec le Monilia, enfin, on va dire que le problème avec beaucoup de maladies aujourd'hui, malheureusement, c'est que avec la législation qui s'est renforcée, tellement renforcée d'ailleurs qu'elle nous reste, elle nous laisse plus rien. On n'a strictement aucun produit homologué aujourd'hui pour traiter le Monilia. Donc normalement, on pouvait dire que la bouillie bordelaise pourrait éventuellement avoir un effet. Alors, d'ailleurs, c'est ce que je vais vous conseiller parce que de toute manière, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, en fongicide pour les jardins privés, on a soit du soufre qui est pour l'oïdium, soit de la bouillie bordelaise pour les autres maladies cryptogamiques. Mais il faut savoir que la bouillie bordelaise n'a une action que préventive. Alors, je répète, pour les éventuelles personnes un petit peu chagrines qui nous écouteraient, la bouillie bordelaise n'est pas homologuée pour le Monilia. Mais, comme on n'a pas grand-chose d'autre, je vais vous conseiller ça. Alors, je répète, c'est préventif. Donc, une fois que les symptômes sont apparus, ça ne sert strictement à rien. Donc, il faut traiter plutôt deux fois. La première, c'est au moment où vous aurez environ un quart à un tiers des feuilles à l'automne qui sont jaunes ou tombées. Traiter à ce moment-là pour que la chute des feuilles soit accélérée et surtout que l'articulation du pétiole avec la tige, c'est-à-dire cette petite plaie minuscule qui existe, soit recouverte avec le produit et empêche l'intrusion des spores de la maladie dans la plante. Deuxième chose à l'automne, vous ramassez très soigneusement les feuilles et vous ne les mettez pas au compost. Ça, c'est indispensable. C'est la meilleure façon de transmettre la maladie. Et puis, au printemps, au réveil de la végétation, lorsqu'il y a ce que l'on appelle le débourrement, c'est-à-dire donc l'éclatement des boutons, avant même donc que les fleurs soient apparentes, parce que dès qu'elles sont apparentes, on ne traite plus les abeilles, il faut les protéger, même si la bouillie bordelaise n'est pas particulièrement toxique pour les abeilles, mais on ne traite pas pendant la floraison. Donc, juste avant cette floraison, le gonflement, l'éclatement du bourgeon, vous faites une autre bouillie bordelaise. Alors, ça ne fera pas une protection 100%, mais ça va certainement atténuer un tout petit peu les risques de cette maladie. Derrière ça, il est évident que les fruits qui vont se momifier sur l'arbre, alors ça, c'est pas très commode sur le cerisier parce que c'est généralement un arbre assez grand, mais l'idéal, ça serait de les enlever très soigneusement et de les jeter, les mettre au feu ou dans une poubelle pour que vous ne favorisiez pas la transmission de cette maladie.
D'accord. Et on peut pas le tailler parce qu'il est tellement haut.
Alors un cerisier, ça peut se tailler, mais pas trop sévèrement parce qu'on le fragilise pas mal et la taille du cerisier se fait dans la dernière semaine d'août et jusqu'à la fin septembre, c'est-à-dire lorsque on commence à avoir un reflux de sève, ce qu'on appelle la sève descendante, la plante se préparant à passer l'hiver. Donc à ce moment-là, vous avez la sève qui commence
à
revenir.
Donc pas une coupe drastique, c'est ça ?
Alors sur le cerisier, non, pas de taille drastique, parce que on va dire, vous avez souvent des écoulements de gomme, et derrière, alors la gomme, c'est une sorte de protection, comme une croûte que la plante fait, mais ça favorise souvent l'entrée aussi de parasites dans le bois. Et lorsque vous avez notamment des maladies d'origine bactérienne, là, ça vous tue votre cerisier rapidement. En général, les cerisiers, ils seraient beaucoup plus judicieux de les former jeunes, c'est-à-dire d'éviter dès la plantation que les branches partent tout en hauteur et au contraire se ramifient, ce qui favorise vraiment la fructification.
Louisa, merci pour votre appel.
Eh ben merci
à vous.
Beaucoup.
Très bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
À très bientôt. Il est 9h17 sur RMC. Tiens, on fait un gros bisou à Ghislaine qui nous envoie un petit message bien sympathique sur Direct Studio. Elle nous dit qu'elle adore nos émissions du week-end. On vous embrasse, Ghislaine. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous laisser vos petites missives sur Direct Studio.
Ghislaine est le prénom d'un rosier extraordinaire que
en plus.
Ça, il y a tout le monde qui s'appelle Ghislaine de Féligonde. C'est un grand grimpant. Et si vous voulez vraiment un rosier tranquille, parce qu'en plus, moins on le taille, plus il est beau. Eh bien, écoutez, prenez un Ghislaine de Féligonde.
Allez, 6h17, il est temps de retrouver le conseil de Patrick Mulan.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC.
L'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Et ce matin, on va parler de palissage et de tuteurage. Tout d'abord, Patrick, fait-on une différence entre le tuteurage et le palissage ?
Alors, l'action finale est la même. C'est-à-dire, c'est attacher une plante sur un support. Mais le palissage, c'est plutôt pour tout ce qui est à plat. Quand vous attachez une plante sur un grillage, sur un treillage, sur une armature, eh bien là, vous faites un palissage. Et notamment, lorsque vous orientez les branches. C'est-à-dire que, par exemple, on vient de parler... Alors, le cerisier, ça marche pas trop bien, mais dans les arbres fruitiers, sur les pommiers poiriers, quand vous faites des palmettes, eh bien, on va palisser les branches pour qu'elles restent bien à plat. Sur le tuteurage, c'est plutôt lorsque on maintient la plante sur une colonne, sur un arceau, sur un piquet, qu'on appelle en général un tuteur. Et là, donc, on attache la plante sur un support vertical.
Est-ce qu'il existe d'autres mots techniques qui désignent en fait ce type d'action ?
Alors j'en connais deux, il y en a peut-être encore d'autres. L'accolage, c'est un terme de viticulture et même aussi un peu d'arboriculture fruitière qui désigne l'attache sur les fils. Vous savez, les vignes, on fait une armature avec des fils horizontaux et lorsque l'on attache les sarments donc horizontalement, on fait un accolage. Et puis, il y a le aubanage. Le aubanage avec un H pour les conifères notamment. C'est-à-dire que aubaner, ça consiste à tendre un fil généralement métallique ou un gros fil de pêche et de planter un piquet, soit pour redresser une plante, soit pour la protéger des vents dominants. C'est-à-dire que lorsque vous avez planté un jeune conifère, notamment, qui donne pas mal de résistance au vent, eh bien, le fait de le aubaner, ça va lui permettre de rester droit. Sinon, il va être penché par le vent.
D'accord. Patrick, si on se faisait un petit point sur tous les supports que l'on utilise pour attacher les plantes, ça serait pas mal, non ?
Il y en a quand même quelques-uns. Alors, bon, les arceaux, c'est très joli, puisqu'en fait, ce sont, comme son nom l'indique, c'est une arche, en fait, généralement métallique, donc la partie supérieure est en demi-cercle, et on va mettre des plantes grimpantes, généralement assez légères, par exemple des clématites, ça va très très bien sur les arceaux. Alors l'armature dont je parlais précédemment, c'est une structure métallique en bois sur laquelle on attache les rameaux d'une plante grimpante ou d'un arbre fruitier qui est en palmette, par exemple. Alors le cerceau, tiens, ça c'est un truc, on oublie ça en France, les Anglais adorent ça. En fait, vous avez donc un rond en métal quadrillé et on le maintient par des piquets. Et vous le posez à peu près, on va dire, à 30 cm de hauteur au départ de la végétation sur les grandes plantes vivaces.
Ah oui.
Par exemple, les grands phlox, les grandes marguerites, etc. Et qui vont pousser au milieu de cet arceau qui disparaîtra dans la végétation, mais qui va maintenir solidement la base des tiges, et donc les plantes vont pousser bien droit et vont pas s'affaisser lorsqu'il pleut, par exemple. Bon, bah, pensez à une clôture, bien entendu, ça peut supporter très bien une plante grimpante. Alors, qu'est-ce qu'un échalas ? Un échalas, c'est un tuteur vertical qui s'utilise généralement aussi sur la vigne. Les fagots. Alors les fagots, c'est quoi ? C'est un branchage tout desséché qui est multiple branches et que l'on plante dans le sol, notamment au pied des pois à rames ou des haricots à rames. Ça fait un tuteurage naturel. Alors généralement, les fagots, on en met deux de façon à ce qu'ils se maintiennent l'un avec l'autre et la plante, elle pousse au milieu et après tout le monde tient ensemble. Bon, il y a des idées aussi. Des plantes costauds comme le maïs ou comme le tournesol, c'est génial pour servir de tuteur naturel à des haricots grimpants ou à des petits pois. C'est des choses qui se faisaient dans les pays amérindiens, notamment l'origine de ces plantes-là, où on cultivait le plus possible de plantes sur le même endroit. Mais en même temps, ça peut être très très beau. Bon, alors les pergolas, les tonnelles par exemple, les treillages bien entendu. Mmh. Et puis, tiens, quand vous pensez aux tuteurs, il y a des tuteurs dans le commerce, tuteurs à réserve d'eau qui peuvent être extrêmement utiles dans les régions. Il pleut pas beaucoup.
Patrick, pour terminer, quelle est l'utilité en fait ? Parce que c'est vrai qu'on évoque tout cela depuis tout à l'heure, mais l'utilité du palissage ou du tuteurage ? Et puis peut-être après, si vous avez des conseils pour bien attacher une plante à son support.
D'accord. Alors déjà, maintenir une plante nouvellement plantée, généralement un arbre, un tuteur, ça sert à lui permettre de bien installer ses racines et de ne pas être soumis au vent. c'est aussi le tutorage ou le palissage pour obtenir une silhouette particulière sur un arbre. Quand je parlais ou un arbuste, quand je parlais d'un arceau, par exemple, eh bien, en palissant les branches le long d'un arceau, vous allez donner la forme de l'arceau à la plante, et ça, ça peut se faire même sur des arbustes. Par exemple, tiens, des laburnums, les cities, on peut les palisser, on ne le fait pas souvent, mais ça peut être génial. Et puis, contraindre la plante à fleurir. Vous savez, je vous parle souvent que lorsqu'une plante pousse trop fort, elle fait essentiellement des feuilles et des tiges, pas des fleurs. Eh bien, le fait de la palisser en arquant la végétation, en retournant, si vous voulez, un petit peu le sens de végétation, ou alors en la palissant en spirale, eh bien, ça ralentit la sève, ça favorise les pousses secondaires et florifères. Il y a aussi un truc tout bête, c'est soulager simplement le poids d'une plante. Un melon, un concombre, une tomate, ça fait des fruits qui sont lourds. En mettant un support, et vous permettez à ce que ces fruits ne s'écroulent pas lamentablement.
Est-ce que quand on attache une plante, il faut par exemple bien la serrer ou pas?
Mais non, parce qu'il faut penser qu'elle va pousser aussi en largeur.
Et voilà.
On oublie ça au début
de
saison.
De la marge.
Ça pousse en longueur, mais aussi en largeur. Donc on ne serre jamais. Et puis il faut quand même surveiller, surtout sur les arbres, justement l'état des fixations, voir que ça rentre pas à l'intérieur de l'écorce. Et puis, lorsque vous plantez un tuteur au moment de la mise en place d'un arbre, mettez le tuteur avant l'arbre. Parce que si vous avez déjà les racines qui sont dans le sol et que vous plantez votre tuteur, vous pouvez blesser les racines. Et puis la dernière chose, placez les tuteurs sur les arbres du côté du vent dominant, encore une fois, pour avoir une meilleure assise.
Eh bien voilà, maintenant vous savez tout sur le tutorage et le palissage. Dans un instant, on va revenir avec Patrick qui nous parlera de sa terrasse qui est en allée pavée. Il aimerait savoir s'il existe un désherbant qui pourrait enlever, en fait, vous savez, toutes les mauvaises herbes qu'il y a dans les interstices de cette terrasse. On va en parler dans un instant. Patrick sera là. Et puis je vous rappelle tout de suite quand même qu'il y a un cadeau superbe ce matin. Je vous offre, écoutez bien, une piscine. Une piscine Summer Waves, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Une piscine tubulaire, rectangulaire, de 4 mètres sur 2. Donc c'est quand même un beau bassin, hein. C'est très sympa. Elle sera parfaite dans votre jardin pour ces magnifiques journées d'été qui vont arriver. Et pour gagner cette piscine, vous nous envoyez dès maintenant le mot jardin par SMS. Jardin par SMS au 732-16. Et vous participerez au tirage au sort. C'est pas plus compliqué que ça. Jardin sur votre mobile au 732-16 et on vous souhaite bonne chance. On revient dans un instant pour la suite de ce week-end des experts jardins avec Patrick Miolan et donc Patrick au 32-16. À tout de suite.
Votre jardin sur RMC avec Mano Mano.
RMC
6h-7h.
Votre jardin, François Sorel,
Patrick Miolan.
Il est 6h30 tout pile. Vous avez choisi RMC en ce week-end et vous faites bien. C'est le week-end des experts, c'est le jardin. Comme chaque samedi, Patrick Miolan nous accompagne et répond à vos questions au 32-16. Dans quelques instants, on va parler des abeilles et l'importance, tout simplement, de planter de jolies fleurs pour que les abeilles puissent venir butiner. Ce sera notre sujet, notre dossier de ce samedi. Mais auparavant, Patrick est avec nous au 32-16.
Oui, hello, bonjour.
Bonjour, monsieur Patrick.
Et bonjour à vous, merci bonjour, pour d'avoir pris mon appel.
Et on vous écoute. Enfin, un autre Patrick vous écoute.
Eh bien, très bien. Disons que j'ai deux questions éventuellement à vous poser. Concernant, première question, c'est concernant, y aurait-il un remède miracle, entre guillemets, pérenne, de pérenne, une solution pérenne afin de désherber des allées ou cours pavées ou bitumées, sans détruire, bien sûr, le support. Mais pour, parce que bon, en ayant essayé des produits actuellement sur le marché, il s'avère que c'est très compliqué.
Bah, oui, vous avez raison, mais vous voyez, s'il y avait des solutions miracles, ça se saurait. Il y avait des produits qui existaient, qui donnaient de très très bons résultats. Alors, si vous avez un truc qui est possible sur les allées, bon, moi je vous le conseille avec beaucoup de guillemets, je vous le dis juste parce qu'on est entre nous, que personne ne nous écoute, vous pouvez très très bien saler votre allée.
Ah bon ? Le sel ?
C'est ce que je pensais.
Le sel, le chlorure de sodium, est extrêmement nuisible pour la plupart de la végétation. Pas tout, hein, parce que vous avez des plantes qui poussent en bord de mer. Mais enfin, je pense que si vous êtes dans le Loiret, j'ai vu Patrick, donc la mer est un peu éloignée, donc il y a peu de plantes qui sont
habituées, on va
des
dire.
Des plantes halophiles, comme on dit, des plantes qui aiment les sols salés, on les appelle des plantes halophiles. Et. Comment ?
Bah, très bien, j'avais déjà essayé, c'est vrai que ça peut être efficace, mais par contre, les, bon, et par contre, une deuxième, enfin, la question qui est importante également, peut-être sous couvert des produits qu'on trouve actuellement sur le marché, et bien, quelle est l'utilité dans la mesure où ce qu'on trouve actuellement, la seule chose qui est réelle, c'est que l'efficacité est prouvée au bout de 3 heures, c'est-à-dire que les plantes se dessèchent, et au bout de la première goutte de pluie, où, bien, tout redevient vert ensuite, et avec des produits qui sont... Bah, qui sont pas anodins non plus pour la nature, ce qui fait que finalement le litre de produit qu'on met pour une surface réduite, eh bien, se retrouve dans la nature malgré tout, même si c'est un produit qu'on trouve du l'acide pélargonium, là, qui est naturel, mais qui est pas si innocent que ça quand même, finalement.
Non mais attendez, je suis totalement, mais totalement d'accord avec vous, simplement il faut quand même préciser une chose. À partir du moment où l'on veut un effet, quel qu'il soit, que ce soit un effet insecticide, fongicide, raticide, herbicide, il faut bien que le produit, il ait une action. On ne peut pas simplement imaginer que, avec, je sais pas quoi, la pluie, on va arriver à faire ce que l'on cherche à faire. Donc, on est parti, dès le départ, sur des dépipés. Parce que on a regardé simplement le danger potentiel de certains produits, pour se dire, il faut virer tout ça parce que ça peut être dangereux. Mais on a oublié ce qu'on voulait faire avec. Donc, à partir du moment où vous ne posez pas les bonnes questions, vous avez forcément les mauvaises réponses. Et aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Au début de l'émission, on a parlé avec Louisa d'un problème de fongicide. On n'a quasiment plus rien pour soigner nos plantes aujourd'hui. Vous me parlez d'un problème d'herbicide et on a, encore une fois, quasiment rien. Alors, est-ce que les herbicides actuels autorisés ont une efficacité, la réponse est oui, avec des guillemets, à savoir que vous avez cité l'acide pélargonique, et il y a aussi l'acide acétique. C'est pas le vinaigre, c'est le composant du vinaigre qui est homologué. Ce sont des produits qui brûlent simplement la végétation par contact. Mais quand vous avez affaire à des végétaux vivaces, avec par exemple des chardons, des liserons, des choses comme ça, qui ont des racines profondes, bah, la végétation, elle est détruite en surface et puis après, ça redémarre.
Ouais.
On finit par les avoir en traitant et en traitant et en traitant, ce qui n'est évidemment, comme vous l'avez souligné fort justement, pas une bonne chose parce que vous concentrez dans le sol des produits qui, encore une fois, ne sont pas totalement innocents. Mmh. Bah, ils ne sont pas nocifs. Ils sont nocifs, oui, parce qu'ils ont cette action-là. Après, ils se dégradent. Alors, c'est ça aussi qu'il faut voir. Mais le fameux Roundup qu'on a éliminé avec le glyphosate était un produit qui se dégradait très bien. Mm-hmm. Mais tout d'un coup, on a fait une fixation là-dessus. Je rappelle quand même à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent que le glyphosate n'avait jamais été classé sur le plan toxicologique. Mais c'est essentiellement des décisions politiques, tout ça. Et malheureusement, donc, à part ce que je vous ai dit précédemment, mais qui est un peu... avec des guillemets, parce que c'est pas autorisé en réalité, et puis quand même, vous avez un risque sur le sol, bon, bah, vous pouvez essayer ça.
Patrick, merci pour votre appel, 6h35. Allez, on prend un petit peu d'altitude. Les abeilles. Nos amis les abeilles. Il faut savoir que du 13 au 21 juin, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, c'est la 4e édition de la Semaine des fleurs pour les abeilles. Et on va en parler parce que cette opération est là pour sensibiliser le grand public à l'importance des plantes mellifères pour la santé, la survie des pollinisateurs et donc forcément des abeilles, Patrick.
Tout à fait, c'est... organisé à la fois par l'interprofession horticole Valor et par l'Observatoire français d'apidologie, plus des partenaires, de manière à ce que on sollicite l'ensemble des gens qui jardinent à occuper un petit bout de leur terrain avec des fleurs mellifères, parce que il faut savoir que les fleurs mellifères, c'est pas simplement pour polliniser. La pollinisation n'est que la conséquence de la nécessité pour les abeilles de se nourrir. Lorsqu'elles vont sur des fleurs, c'est parce qu'elles cherchent le nectar et le pollen qui les nourrissent. Mmh. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une pénurie alimentaire dans les populations d'abeilles.
Alors, donc une semaine exceptionnelle, on l'a vu. Qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine des fleurs pour les abeilles ?
Alors, le fait que ça soit l'interprofession de l'horticulture qui organise cela, c'est qu'il y a une sensibilisation de l'ensemble des composantes de la profession, que ce soit donc les horticulteurs, les semenciers et surtout les distributeurs, les jardineries, qui vont développer des rayons de plantes mellifères qui vont mettre à disposition du public aussi des conseillers qui ont été spécialement formés pour expliquer tout l'intérêt de la pollinisation. Il y a aussi des opérations qui sont faites en partenariat avec les apiculteurs. Il y a des miels, il y a 100 000 pots de miel français. Il faut savoir que nous consommons en France environ 40 000 tonnes de miel, mais on n'en produit que 20 000. Donc l'idée aujourd'hui, on est revenu un petit peu à ça, il faut produire dans son propre pays, et le fait d'acheter du miel à nos apiculteurs, ben, ça va les aider à continuer à faire leur superbe métier. Et il y a donc des petits sachets de fleurs qui sont à vendre, qui s'appellent des milliards de fleurs pour les abeilles, parce qu'il faut savoir une chose. Essayez d'imaginer combien de fleurs les abeilles doivent butiner pour vous fabriquer un kilo de miel.
Ça doit être monstrueux.
C'est monstrueux.
Ouais.
C'est 5 millions de fleurs.
5 millions pour un kilo de miel.
5 millions de fleurs.
Vous vous rendez compte ?
Donc vous imaginez qu'on a besoin d'augmenter énormément la population florale dans ce pays. Pourquoi ? Parce que, étant un pays très agricole, avec une structure agricole plus industrielle aujourd'hui, il faut produire, on est de plus en plus nombreux sur Terre, donc il faut alimenter tout le monde. Eh bien, les champs se sont débarrassés de ce qu'on appelait les plantes messicoles, les coquelicots, les bleuets, les niels, toutes ces plantes-là qui attirent les abeilles.
Oui. Et c'est le paradis des abeilles, oui, c'est ça.
Avec aussi la circulation routière qui est de plus en plus importante, on a occuper un maximum de terrain pour les routes. Donc les bas-côtés maintenant ne sont plus ensemencés par des fleurs sauvages. Mmh. Et les abeilles, eh bien, elles meurent de faim.
Alors, en quoi considère-t-on en fait que les abeilles sont des alliés de la biodiversité, Patrick ?
Eh bien, du fait de cette activité de pollinisateur. C'est-à-dire que une abeille, notamment une abeille domestique par exemple, butine pas une seule fleur, elle butine des quantités de fleurs. Et il faut savoir qu'en France, on a quand même presque 1000 espèces, en dehors de l'abeille domestique, 1000 espèces d'abeilles sauvages, qui parfois, elles, sont inféodées plus ou moins à certaines plantes. Et donc, elles vont travailler, elles vont permettre tout simplement la production eh bien, des fruits et des légumes que l'on consomme. On estime que pratiquement 80% des végétaux que l'on consomme sont liés à la pollinisation par les abeilles.
Comment ça fonctionne une colonie d'abeilles, tiens ?
Ah, ça c'est très très drôle. Vous pouvez imaginer globalement qu'une colonie d'abeilles, c'est un organisme, une sorte de ville, de pays qui serait avec 50 000 sujets dirigés par une reine. Une reine dont le seul rôle essentiel, c'est de reproduire, de pondre et de pondre et de pondre. Donc au départ, au début de sa vie, la reine des abeilles s'envole, suivie par des dizaines, des centaines de faux bourdons, donc de mâles, qui vont la féconder. En général, elle s'accouple une quinzaine de fois au cours d'un seul vol.
Ah oui.
Et puis, elle va avoir suffisamment emmagasiné de semences mâles dans ce qu'on appelle sa spermothèque, c'est-à-dire une sorte de réservoir qui vont lui permettre de pondre pendant environ 5 ans de l'ordre de 2000 œufs par jour. Donc elle renouvelle en permanence sa colonie. Pourquoi ? Parce que les ouvrières, les simples abeilles de base, ça vit que 30 jours environ. Donc il faut en permanence que la colonie soit renouvelée. Alors il faut savoir une chose qui est extraordinaire, c'est que une abeille ordinaire, lorsqu'elle naît, elle va faire des tâches au fur et à mesure de son évolution. Alors elle commence par être nettoyeuse, après elle devient nourrice, après elle bâtit les alvéoles, après elle est magasinière, c'est-à-dire qu'elle va mettre le miel à l'intérieur, elle ventile la ruche, elle devient gardienne, et puis finalement, simplement butineuse. Ce sont les plus vieilles abeilles qui butinent, et elles butinent jusqu'à leur mort.
Tiens. Pourquoi dit-on qu'il y a un déclin des abeilles un peu partout ?
Alors, il est évident que l'agriculture intensive et l'emploi de pesticides a considérablement joué là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les dérèglements climatiques, il y a ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est-à-dire le changement simplement du paysage, le manque de fleurs,
oui, bien sûr,
l'urbanisation à outrance, et puis sans aucun doute, le dérèglement climatique. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque le printemps est trop précoce, eh bien, les fleurs s'épanouissent à un moment où les abeilles sont pas forcément réveillées. Elles sont pas forcément en phase. Elles ont un rythme, elles ont un cycle. On appelle ça un rythme circadien. Ben, si elles sont pas réveillées au moment où les fleurs sont épanouies, eh bien, elles butinent pas. Et donc, ça aussi, on peut s'inquiéter par rapport à cela. Et puis, il y a les frelons asiatiques.
Oui, bien sûr, les frelons asiatiques qui sont terribles. Hein. Il y a des documentaires sur les attaques des frelons sur les abeilles. C'est hallucinant. Est-ce que on doit réintégrer les abeilles en ville, Patrick?
Alors, c'est déjà fait. Vous savez qu'à Paris, il y a à peu près 2000 ruches. On n'imagine pas 2000 ruches dans la ville de Paris. Mais on se rend compte que ça commence à être trop. Parce que vous me disiez tout à l'heure, au début, avant qu'on ouvre les micros, que vous avez vu chez vous une petite abeille solitaire.
Tout à fait.
Eh bien,
qui fait un trou dans un pot et qui stocke en fait des petites fleurs.
Elles vivent dans des cavités, elles ne font pas de miel, elles ne piquent pas, mais elles sont ultra importantes pour la pollinisation. Et ces abeilles naturelles, enfin sauvages, elles sont un peu en concurrence avec nos abeilles domestiques. Et quand on a trop d'abeilles domestiques, avec, en revanche, une population de fleurs relativement faible, notamment en ville, eh bien, les abeilles domestiques prennent le pas sur les sauvages, et l'efficacité, eh bien, décroît.
C'est compliqué, hein, cet équilibre.
Équilibre biologique, tout à fait.
6h43, on revient dans un instant avec Patricia qui a une question justement sur les abeilles, ou plutôt un témoignage. N'hésitez pas, hein, 32-16, l'appli RMC Direct Studio, et puis toujours cette piscine que je vous offre sans abeilles à l'intérieur, hein, bien sûr. C'est juste pour vous. Cette piscine, donc Summer Waves, de 4 mètres sur 2, je vous l'offre par SMS avec le mot jardin. Vous nous envoyez jardin au 7-32-16 et vous participerez au tirage au sort. À tout de suite avec Patricia, et puis on retrouvera la météo du jardinier. C'était RMC.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà, on termine notre sujet sur les abeilles, puisque nous vivons cette semaine des abeilles, où on les célèbre en quelque sorte, avec ces petites graines que vous nous présentiez tout à l'heure, que l'on peut retrouver un peu partout, hein, Patrick.
Oui,
et qu'on sème, voilà, pour faire plaisir aux abeilles.
Le petit sachet, ça vous fait 6 mètres carrés de fleurs pour les abeilles.
C'est sympa. Patricia est avec nous au 32-16.
Oui, bonjour.
Bonjour Patricia.
Bonjour Patricia.
Bonjour. Bonjour à toute l'équipe.
On vous écoute.
De vous avoir. Voilà. Alors moi, je vous explique vite fait. En fait, moi, ce qui me fait bondir, c'est de voir les paysagistes qui sont soi-disant des professionnels de tout ce qui est végétal et ainsi de suite, enfin végétaux, comme on veut, raser les pelouses au moment du printemps. En fait, partout où je suis passé, moi j'habite à Lyon, je pense que ça se passe partout en France, c'est qu'ils rasent, à partir du printemps, ils rasent les pelouses, les talus, partout où on voit des fleurs, donc des coquelicots, enfin toutes ces plantes mellifères qui attirent les abeilles et qui en fait qui sortent un peu d'hibernation, si je me trompe pas, et qui ont besoin de tout ça, et c'est rasé de partout. Moi je me suis opposée aux jardiniers qui interviennent dans mon quartier. Je me suis mis devant la tondeuse, j'ai pas cherché à comprendre, parce que je leur ai dit, mais vous, c'est le monde qui tourne à l'envers. Je fais, on nous dit de protéger les abeilles, il faut de la pollinisation, on a besoin de ci, besoin de ça, et vous rasez. Je fais, est-ce que vous avez fait simplement l'école du paysagisme, quoi? Parce que même moi qui suis, nous on a des jardins partagés, j'apprends à jardiner en ce moment, et c'est vraiment extraordinaire, mais c'est la première chose que j'ai appris, c'est les plantes mellifères pour que les abeilles, les faux-bourdons, tous ces animaux, ces insectes qui nous aident à ça,
oui, ma chère Patricia.
On leur rase, en fait, leur alimentation, quoi.
Vous avez raison que partiellement, parce que une pelouse, ce n'est strictement pas fait avec des plantes mellifères. Par définition, une pelouse, c'est un ensemble de graminées, et les graminées, si on les laissait, égrenées, ça n'a aucun intérêt, ou pas beaucoup, pour les abeilles. En revanche, où vous avez raison, c'est sur les talus. Sur les talus, où là, vous avez de la flore spontanée, de la flore sauvage, qui peut pousser. Mais une pelouse, ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt pour les abeilles, hormis, éventuellement, pour les osmies, les petites abeilles solitaires qui peuvent venir faire leur nid en creusant à l'intérieur. Mais c'est pareil, le passage de la tondeuse, ça va pas les gêner particulièrement. Donc il faut faire attention à ce que l'on voit ou à ce que l'on dit, parce que c'est pas aussi simple que ça. Donc le fait, effectivement, de pouvoir réensemencer des endroits dans la ville avec des fleurs mellifères, ça c'est une bonne idée. Les pelouses, c'est un autre sujet.
Merci Patricia pour votre appel
pas
en tout cas.
Merci pour votre réponse.
Eh ben merci à vous. Patrick, on enchaîne 7h10, on fait un point sur la météo du jardinier. Qu'est-ce que nous promettent les cartes de Météo France pour les jours qui viennent?
Bah, globalement, c'est ce que Guillaume Gomis nous a dit pour aujourd'hui, ça va pas beaucoup bouger. On est sur des flux doux, hein, les vents sont assez faibles, plutôt sud-sud-ouest, ouest. Donc c'est une température moyenne avec de temps en temps des averses et de temps en temps des éclaircies. Donc voilà, c'est le genre de météo facile à dire. Il y a un peu de tout
qui
va se passer.
Alors c'est un temps instable, mais est-ce que c'est bon pour le jardin ce temps-là?
Alors oui, parce qu'il n'y a pas de fortes chaleurs qui sont du tout...
Vous disiez tout à l'heure, votre jardin là en ce moment est magnifique.
Alors nous, le jardin est magnifique. Je me disais, il faut que j'arrose parce qu'on avait eu quelques jours où il n'avait pas plu. Puis c'est arrivé, magnifique, parce que il est évident que l'eau de pluie est toujours préférable à l'eau des villes pour arroser votre jardin, puis ça coûte beaucoup moins cher.
Ça arrose aussi bien?
La pluie?
Ouais.
Mais bien mieux.
Oui, mais enfin, un arbre, par exemple, la pluie va ruisseler, est-ce qu'elle va...
Ah oui, mais il y a tellement de quantité d'eau. Quand il pleut, vous savez, on va dire, il va pleuvoir, allez, 15-20 mm. C'est quoi, 15-20 mm?
C'est beaucoup.
C'est 15 à 20 litres par mètre carré.
Oui.
Vous, avec votre petit tuyau d'arrosage, vous êtes très loin de ça. Vous savez, vous allez faire un truc pour vous rendre compte. Vous prenez votre tuyau d'arrosage avec votre pistolet habituel, puis vous prenez un gros arrosoir et vous le remplissez. Et vous comptez combien de temps vous mettez.
C'est mon truc. Mais bien sûr.
Donc, ça veut dire que sur chaque mètre carré, il faudrait que vous preniez le temps de remplir ce tuyau, cet arrosoir. Non. La pluie est bien plus efficace.
C'est intéressant ce que vous dites. Quand il pleut beaucoup, ce n'est pas la peine d'arroser les jours qui suivent.
Ah ben là, en ce moment, avec la température qui fait, on dépasse guère 20 degrés dans la plupart des régions. Là, vous en avez au moins pour la moitié de la semaine. Et si on reste vraiment sur cette atmosphère un peu humide, parce que ça compte aussi, l'air.
Bien sûr.
Je pense qu'il n'est même pas nécessaire d'arroser pendant la semaine.
D'accord.
Donc on va avoir ce temps-là. Qui n'est pas un grand temps pour le jardinage lui-même, ça va être un peu compliqué parce que plus on va avancer dans la semaine et plus les pluies risquent d'être assez importantes. Il y a guère à peu près que la région marseillaise, où il y aura la région d'Avignon,
où
ça sera plus sec, mais partout ailleurs il y aura de l'eau au moins une fois dans la semaine. Donc profitez-en parce que votre jardin va en profiter. Par exemple, il y a un truc extraordinaire, les pelouses, elles étaient jaunes parce qu'il y avait eu au moins une semaine où il n'y avait pas eu d'eau. Une pluie, elles sont vertes le lendemain.
Et voilà, c'est ça qui est top.
Donc ça vous montre vraiment l'efficacité de la pluie et on en a besoin et tant mieux, ça marche.
Parfait, oui, comme ça on évite les déficits hydriques pour cet été. Hein.
Pour l'instant, oui, alors voilà. Nous sommes encore qu'au printemps.
Oui.
L'été arrive dans une semaine, on va dire le 21.
Patrick, pour terminer, un petit coup de cœur.
Bah, un petit coup de cœur, je voulais quand même parler du concours national des jardins potagers qui est organisé par plusieurs organismes, le GNIS, la SNHF, les jardins familiaux, jardinaux. C'est un concours qui vous permet, quel que soit le type de potager que vous cultivez, à condition d'y créer une vraie biodiversité. C'est-à-dire que si vous mélangez des fleurs, des légumes, des aromatiques, beaucoup d'espèces, vous pouvez participer à ce concours pour montrer à la fois votre savoir-faire, votre enthousiasme, etc. Et puis inciter un petit peu tout le monde aussi à y aller. Donc c'est un concours qui est très facile à faire. Vous envoyez simplement des photos de votre jardin potager. Vous avez donc sur Concours National des Jardins Potagers, vous tapez ça sur Internet, vous allez voir tous les organismes qui l'organisent peuvent vous accueillir et c'est vraiment très sympa.
Monsieur Miu Miu, merci pour les abeilles, merci pour tout, merci pour tous nos auditeurs jardiniers et on se retrouve la semaine prochaine bien sûr.
Ça sera avec plaisir les jardinières, je vous embrasse, ma petite jardinière, ma petite perle, voilà, comme tout le monde. Et puis on va aller faire quelques petits reportages du côté de l'Allier cette semaine. Il y a des beaux jardins à visiter, les jardins, s'ils sont ouverts maintenant et ils vous attendent.
Voilà, on en parlera dans les semaines qui viennent. Patrick Miolan, le jardin est terminé, dans un instant c'est la maison et c'est avec Christian Pessé.
Mais
bonjour,
oui,
Christian.
Nous sommes déjà là tous ensemble.
On va sécuriser la maison.
Oui, on va sécuriser la maison et puis on va voir que la sécurité de la maison, c'est pas seulement contre les cambrioleurs, c'est aussi tout un ensemble,
bien
notamment
sûr.
Si on a des seniors à la maison ou justement, s'ils ne sont pas à la maison. On va voir, il y a tout un tas de choses très intéressantes avec la connexion.
Voilà, et puis on évoquera aussi les revêtements des sols, hein, le lino, le PVC,
on va parler
etc.
Du lino,
hein. Voilà.
Et votre grand-mère, votre arrière-grand-mère qui avait du lino, non?
Ah, bah, écoutez, j'ai pas eu l'occasion de lui poser la question, la pauvre.